RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez à l'occasion du Salon international de l'agriculture qui fermera ses portes demain à Paris, nous parlons de la nécessaire transition des agricultures des pays du Sud vers l'agroécologie, une discipline scientifique qui prend de l'ampleur car ce serait l'une des solutions pour aider les paysans à vivre de leur production de manière durable tout en respectant l'environnement. Encore faut-il pouvoir le démontrer et c'est tout le travail que font nos invités, Bruno Rapidel qui est donc agronome au CIRAD, le Centre international de la recherche agronomique pour le développement, Marie-Cécile Thirion, adjointe à la division agriculture au sein de l'Agence française de développement, Aurélie Toilier, qui est donc chercheuse pour le CIRAD au Burkina Faso, et Pablo Titonel, coordinateur d'un programme sur la gestion des ressources naturelles et de l'environnement au sein de l'INTA, l'Institut de recherche agronomique argentin. Alors, Bruno Rapidel, on le disait à la fin de la première partie de l'émission, c'est un modèle difficile à défendre quand même aujourd'hui, face notamment au lobby de l'agriculture intensive, l'agroécologie, parce qu'il changeait de modèle. Une transition, ça veut dire qu'il faut faire face à ceux qui gagnaient dans l'ancien modèle pour en faire émerger de nouveaux.
Certes.
Vaste sujet.
Vaste sujet, parce que l'idée de cette transition, c'est aussi de la faire avec ces entreprises privées. C'est-à-dire, c'est aussi de faire changer cet accompagnement privé de façon à ce qu'il continue d'accompagner ces transitions. Donc, il faut aussi qu'on travaille à faire changer les manières de faire de ces entreprises.
Pablo Titonel, c'est complexe cela en Argentine.
On connaît bien la puissance des entreprises internationales sur la capacité des lobbies qu'ils ont. Mais je pense que quand on parle de convaincre, je pense que l'effort de convaincre est plutôt visé vers les chercheurs, vers les politiciens, vers des fois les compagnies, pas tellement vers les agriculteurs. Je pense qu'avec les agriculteurs, c'est pas tellement difficile de les convaincre. L'agroécologie, comme vous avez dit, c'est une discipline scientifique, mais c'est aussi un mouvement. Et c'est un mouvement social qui a beaucoup d'adeptes et qui n'attend rien de l'État, qui n'attend rien des chercheurs qui avancent sans nous, disons.
Parce que c'est aussi presque un état d'esprit.
Ben oui, c'est ça. Et c'est aussi une revendication du rôle de l'agriculteur, l'agriculteur au centre de la production d'aliments. Et pas forcément les agriculteurs qui suivent les prescriptions des entreprises ou des chercheurs, etc. Donc c'est l'agriculteur au centre du système.
Oui, ça c'est nouveau finalement, parce que jusque-là, l'agriculteur était, enfin dans la révolution industrielle, révolution verte, on va dire, de ces 40 dernières années, c'était plutôt l'agriculteur qui était presque un récepteur des produits qu'on lui vendait. Et voilà, il avait qu'à finalement utiliser le kit qu'on mettait à sa disposition. Et maintenant, on lui dit, soyez responsable des écosystèmes que vous gérez et faites avec. Enfin, je caricature, mais c'est quand même une révolution mentale.
C'est une révolution dans certains types d'agriculture, comme l'agriculture industrielle, mais pas forcément chez les agriculteurs familiales de petite échelle, où ils ont toujours été au centre des agroécosystèmes qu'ils gèrent. Hein.
En tout cas, ça marche sur le terrain. Par exemple, je vous propose d'aller au Burkina Faso où de nombreux agriculteurs se lancent dans l'agriculture biologique, notamment autour de la capitale Ouagadougou, comme l'a constaté sur place notre correspondant Yaya Boudani.
Je suis en train de biner. Bon, je fais comme ça pour faire de l'épicard demain matin. Bon, en tout cas, c'est difficile, mais comme on n'a pas le choix.
Au jardin de l'association La Saisonnière, les femmes sont à l'agriculture biologique. Depuis 2007, Madame Sinare Néoudraogo-Aminata produit et vend des légumes biologiques.
Avec l'utilisation des produits chimiques, on a dégradé notre sol. Bon, et le rendement était devenu faible. Sur le marché aussi, on n'était pas aussi connu que ça. Donc, on vendait mal. Vraiment, présentement, aujourd'hui, nous sommes dans le bio. Nous produisons uniquement que des produits bio. Donc, et présentement, vraiment, c'est très bien. Nous vendons bien. On a beaucoup de clients.
L'association bénéficie du soutien du Conseil national de l'agriculture biologique. Le Sénabio est un réseau de professionnels qui regroupe une soixantaine d'acteurs, associations, producteurs, ONG nationales ou regroupements de producteurs. Sa mission, faire la promotion de l'agriculture biologique sur le plan national. Le Conseil national de l'agriculture biologique est chargé de suivre les activités des producteurs et à ce titre, il contribue au développement des technologies et au renforcement des capacités des acteurs. Il délivre également la certification Bio-SPG, un système de certification biologique adapté au contexte burkinabé. Souleymane Yougbaré est un agronome. Il est chargé de mission au Conseil national de l'agriculture biologique.
D'abord, ne pas utiliser les intrants chimiques de synthèse, c'est-à-dire les engrais chimiques, les pesticides chimiques de synthèse, ça c'est à proscrire. Et aussi appliquer les techniques de rotation, par exemple, des cultures, d'association culturelle, afin de ne pas, en tout cas, faire de la monoculture. Autre aspect aussi, c'est son environnement, c'est-à-dire il faut quand même mettre l'agroforesterie aussi, c'est-à-dire planter des arbres fertilitaires qui contribueront aussi à enrichir les sols et aussi, en tout cas, faire de telle sorte à être isolé des sites qui sont déjà conventionnels pour éviter les contaminations. Un autre point aussi, c'est l'utilisation de l'eau, puisque effectivement, pour produire, il faut de l'eau, mais si l'eau n'est pas de bonne qualité, c'est compliqué en tout cas de pouvoir faire de la production biologique.
Une certification dont l'obtention obéit à des contraintes et cela demande beaucoup d'efforts.
Bon, par exemple, pour la laitue, premièrement, je fais ma pépinière. Et à 25 jours de la pépinière, je prépare bien ma planche. Si je prépare bien ma planche, j'ajoute une brouette de compost. Donc, j'arrose bien. Le lendemain, je fais mon repiquage. Donc, à une semaine après, et je bine et j'ajoute encore le compost. À 15 jours encore, je bine encore et ça, c'est comme ça. Au bout du 25e jour, je peux récolter. C'est nous-mêmes qui produisons nos composts.
Comment?
Bon, pour produire le compost, et nous achetons les déchets des animaux. Bon, il y a les résidus du jardin aussi. Et il y a les feuilles des arbres sèches ou bien les arbres frais même. Il y a les herbes. On entache tout ça et on paye au moins deux charretées des déchets des animaux, plus de la cendre. Donc, la première couche, c'est de la paille bien piétinée, on arrose. Et deuxième couche maintenant, c'est la fumure organique bien arrosée. Après, c'est la cendre qu'on met ou bien le phosphate du Burkina si on a les moyens. Donc après le phosphate ou bien la cendre, c'est encore la paille qu'on met. Après ça, on arrose et on ajoute encore les déchets d'animaux. Donc on fait comme ça ainsi de suite jusqu'à finir le tout. Chaque trois jours, on enlève les sachets et on arrose. Au bout du 45e jour, le compost est bien mûr et on peut utiliser.
Les producteurs sont confrontés à la difficulté d'obtenir des semences biologiques. Même si certains essaient d'en produire sur place, selon Sophie Sédégo, présidente de l'association La Saisonnière.
On ne dispose pas pour le moment de semences biologiques. Surtout les semences de nos spéculations locales. Parce que nous valorisons également nos produits locaux, tels que l'amarante, les cléoles. Alors ça aussi, nous valorisons.
Sur ce plan, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement accompagne le Conseil national de l'agriculture biologique. Ce centre favorise les partenariats entre les différents acteurs intervenant dans l'agroécologie pour faire face aux multiples difficultés qu'ils rencontrent. Noumandé Prosper Kola, chargé du suivi, évaluation et capitalisation des activités de renforcement des capacités du CIRAD.
Nous accompagnons par exemple les acteurs de la CID Bio-SPG à collaborer entre eux, c'est-à-dire tous les acteurs du Bio-SPG, de la FEM jusqu'au Conseil national pour l'agriculture biologique, à collaborer entre eux et aussi à s'impliquer dans les processus et des stratégies politiques. Et aussi à expérimenter et à apprendre avec la recherche. Vous voyez, tout à l'heure, ils ont évoqué la difficulté d'avoir accès aux semences. Et donc, ce que le CIRAD fait, c'est de mettre en relation les différents acteurs de l'agriculture biologique avec la recherche pour qu'ils puissent d'abord exprimer leurs contraintes à la recherche et pour que la recherche puisse s'intéresser aux questions liées à la semence. Et donc, cela se fait à travers des ateliers multi-acteurs qui sont animés par le CIRAD et pris en charge par le CIRAD.
Le CIRAD prévoit la mise en place d'une plateforme numérique afin d'aider les agriculteurs à commercialiser leur production. Ainsi, producteurs et consommateurs pourront échanger et mieux établir des relations d'affaires. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI.
Aurélie Toilier, vous êtes chercheuse sur l'innovation dans l'agriculture pour le CIRAD au Burkina Faso. Vous accompagnez donc ce projet. Alors, on vient de l'entendre dans le reportage, c'est quand même très complexe. Il y a de nombreux défis à relever, que ce soit les méthodes de culture. Déjà, on a entendu, il y a un cahier des charges très très précis. Mais il y a aussi les enjeux de l'approvisionnement en semences, puis après de la commercialisation de ce qui est produit.
Oui, absolument. Alors, toute cette dynamique de conversion à l'agriculture biologique est accompagnée par un réseau d'acteurs spécialisés qui est le Sénabio et les membres du Sénabio, qui sont donc un ensemble d'ONG spécialisées dans l'agroécologie et qui se mobilisent ensemble pour répondre à tous ces enjeux. Donc à la fois mettre en place des systèmes de conseil aux productrices bio pour les accompagner sur le plan technique, mais ils appuient aussi le développement de filières courtes en trouvant des modèles économiques pour mettre en relation des consommateurs avec ces productrices pour qu'elles gagnent le plus possible sans qu'il y ait de pertes sur leur marge de production. Également, tout ce réseau d'acteurs spécialisés a un travail de plaidoyer envers les politiques pour que l'agriculture biologique soit prise en compte dans les politiques agricoles.
Oui, parce que ça représente quelle quantité à l'échelle du pays ? C'est minime aujourd'hui ?
C'est minime. Alors, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a peu de fermes qui sont labellisées bio. Donc, des fermes de production de maraîchage. Donc là, on parle vraiment de maraîchage pour alimenter les centres urbains. Donc, c'est pour ça que le Sénabio a travaillé depuis 2010 à la création donc de ce label, le Bio SPG, qui est le premier label burkinabé qui permet de reconnaître des produits locaux qui ne sont pas forcément dédiés à l'exportation, à l'export, puisqu'il y a des labels bio internationaux qui sont vraiment pour alimenter les marchés européens.
Mais il faut réussir à être compétitif localement, à résister par exemple à la compétition des prix des produits importés, par exemple, qui parfois sont déversés par l'Europe et ne sont pas chers, ou ce genre de choses. C'est difficile, non?
Bon, alors sur les légumes et les fruits, la question
oui,
sur
le
pose
frais,
pas trop.
Ça se pose moins.
Pas parce que c'est vraiment de la production locale. L'enjeu, il est plutôt sur comment changer les habitudes alimentaires des consommateurs qui savent que donc, c'est des produits chers. Les fruits et légumes sont très chers. Le bio, ça fait augmenter encore les prix. Mais par contre, ce qui commence à changer, c'est vraiment la prise de conscience des questions de santé et de pollution, de résidus de pesticides qu'on retrouve dans les aliments et qui ont des impacts sur la santé humaine. Donc, il y a une étude qui vient de se terminer de recherche qui a montré la quantité de résidus donc de pesticides sur des fruits et légumes et aussi dans l'eau auquel est au contact les enfants. Et donc, il y a eu toute une sensibilisation d'agriculteurs à ces questions de santé de leurs enfants, même qui se promènent dans les champs où sont répandus les pesticides. Et donc là, ça a vraiment créé un déclic dans la prise de conscience de diminuer l'usage des intrants de synthèse et donc de s'intéresser davantage à l'agriculture biologique.
Pablo Titonel, est-ce que vous trouvez des similitudes avec le travail que vous faites en Argentine à l'échelle du pays pour essayer de convaincre justement les agriculteurs de changer là aussi leur méthode ?
Oui, bien sûr. C'est travailler sur plusieurs plans. Donc, sur le plan technique, bien évidemment, de tester des systèmes de production, des systèmes de culture différents sur des bases de connaissances agroécologiques, mais aussi d'aider vers l'organisation et vers la commercialisation. On parle toujours, par exemple, de la lutte biologique contre les ravageurs. Mais ça, c'est typiquement quelque chose qui ne peut pas se faire au niveau de la parcelle. Parce que le ravageur ne connaît pas les limites de la parcelle, les limites de la ferme. Ça, c'est normalement au niveau du paysage. Et quand on parle de paysage, on ne parle pas d'un agriculteur, on parle d'un réseau d'agriculteurs qui doit se mettre ensemble pour concevoir des systèmes plus divers, etc. Et donc, ce niveau d'organisation, c'est assez important en agroécologie aussi. D'organisation sociale pour travailler ensemble vers un objectif agroécologique.
Et c'est là où on voit, Bruno Rapidel, qu'il faut vraiment, finalement, travailler avec de multiples acteurs pour changer la donne à grande échelle.
Ah ben, tout à fait. Et c'est ça, un des grands défis de l'agroécologie, c'est d'emmener tous ces acteurs dans un mouvement, dans une même direction, et de faire que ce changement, il arrive petit à petit. Parce que Marie-Cécile l'a bien dit, c'est compliqué de faire ces changements. Il y a des risques et on ne peut pas emmener tous ces acteurs dans des voies qui ne seraient pas bonnes pour eux. Donc il faut y aller petit à petit, il faut tester, et il faut y aller, il faut essayer d'y aller le plus tous ensemble possible.
Des questions, des témoignages, des idées ? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
was cheap. Education at all levels was also free. That time one night I had plenty money, 1,000 don't make you feel like king. 250 naira go fly you out of the country. Nigerians were profiting from the oil, many jubilating on the dance floor. Our father fell aside to corruption and warned against economic destruction. Say with all our oil money, too many Nigerians were suffering and poor. Instead, make our leaders listen, them beat them and lock them for prison. Using austerity and inflation to cover corruption and stealing. Political criminals walk around free, leaving the country in misery. Africa will be great again, where peace and love will reign. Corruption stops and our country politicians stop the dead job. Africa will be great again when we have first class institutions, infrastructures and not political destruction. Africa will be great again.
Africa will be great again.
Sooner or later, Africa.
Africa will be great again.
Stronger.
C'est pas du vent sur RFI, vous avez bien raison, nous parlons de la transition agricole des pays du Sud vers l'agroécologie, un modèle qui mise sur la diversité et la complémentarité des écosystèmes cultivés avec le moins d'intrants chimiques possible pour garantir un revenu décent aux paysans tout en préservant l'environnement. C'est par exemple le cas au Laos, dans le village de Putong, comme l'ont constaté Caroline Dangléan et Vincent Bonneau qui ont réalisé ce reportage pour le CIRAD.
Putong est un village d'altitude au nord du Laos. Ici, depuis quelques années, les agriculteurs ont l'opportunité de vendre leur production agricole en dehors du village. Pour aider ces communautés à faire face aux mutations économiques et climatiques, le projet EFICAS propose de réduire leur vulnérabilité par la diversification des activités agricoles. Depuis 4 ans, 12 villages de montagne sont impliqués dans l'aventure au travers d'une démarche participative. Avec les agronomes et les techniciens du district, les villageois ont commencé par redéfinir l'aménagement de leur territoire en intégrant techniques agroécologiques et besoins des filières locales.
Par exemple, dans cette zone agricole, les agriculteurs expérimentent une association culturelle entre du riz et du pois d'Angole. On encourage également les associations avec de l'arachide ou du soja pour améliorer la fertilité des sols et l'alimentation des agriculteurs. Dans les zones d'élevage, on appuie deux grandes activités, l'amélioration des systèmes fourragers et la santé animale.
Si l'agroécologie se pratique au niveau de la parcelle, elle doit aussi se penser à l'échelle du paysage.
Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de promouvoir un peu les complémentarités entre les différentes unités de paysage. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à faire avec les animaux. Le fait de les parquer, de mieux contrôler la divagation des animaux, ça permet aussi d'avoir une zone sur laquelle on peut récupérer plus facilement les déjections animales qui pourront être recyclées sur les cultures, donc des cultures commerciales comme des fruitiers ou des légumes ou des cultures vivrières.
Madame Pen est agricultrice à Putong. Elle a vu son niveau de vie augmenter grâce à l'appui du projet EFICAS.
À cette saison, quand on arrose et que l'on utilise les déjections des chèvres sur nos légumes, ils deviennent très beaux. Ils grossissent très vite. En 3 mois, on peut les récolter. Avant d'investir dans les pâturages améliorés, on était pauvres. La première année, on a juste planté une petite surface en pâturage. On a vu que c'était intéressant.
L'approche participative concerne aussi les agents de vulgarisation agricole, comme Feng Sapokam, qui intervient dans ce district. Son rôle, faire le lien entre les agriculteurs, les pouvoirs publics et les centres de recherche. Une des formations proposées par le projet lui a beaucoup plu, utiliser un jeu de simulation pour faciliter les processus de négociation collective.
Habituellement, je dois passer beaucoup de temps avec les agriculteurs avant de comprendre leurs problèmes, leur manière de faire. Avec ce jeu en 4 heures, on arrive à savoir à quoi ils pensent et comment ils font leur choix. C'est une manière intéressante d'aborder les questions de durabilité de l'agriculture et de discuter avec eux des alternatives possibles. C'est l'une des choses, entre autres, que le projet m'a beaucoup apporté.
À Poutong, Efficace a réussi son pari. Engager toute une communauté dans la transition agroécologique. Arrivé à son terme après 4 années d'activité, le projet vient d'être prolongé jusqu'à fin 2019 pour continuer ses activités de planification territoriale et de formation.
Bruno Rapidel, on a entendu dans ce reportage, comme on l'entend souvent dans les reportages sur l'agroécologie, la satisfaction des paysans. C'est-à-dire que les gens sont quand même extrêmement contents de voir qu'ils peuvent se réapproprier les ressources qui sont les leurs dans leur environnement immédiat.
Alors, les gens, ils sont souvent contents quand on va travailler avec eux d'abord, quand on va faire attention à eux. Ça, c'est une première chose. Donc, comme l'agroécologie, c'est quand même une science qui est très contextualisée, c'est des pratiques qui ont besoin de prendre en compte le contexte auquel elles s'appliquent.
Oui, on ne peut pas faire un cahier des charges mondial, quoi. Non. Ça dépend vraiment de où nous sommes. Et...
Voilà. Donc, il faut travailler sur le terrain et effectivement, on travaille avec des gens. Après, il y a un autre sujet de satisfaction pour les gens qui pratiquent l'agroécologie, c'est que d'autres reconnaissent la qualité de leur travail et de leurs produits. Et ça, c'est une grande source de satisfaction pour les gens. Que d'autres viennent de leur pays, d'autres communautés, leurs voisins, voire de l'étranger, et qui regardent ce qu'ils font, et qui étudient ce qu'ils font, et qui travaillent avec eux sur ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment un levier extrêmement puissant de l'agroécologie.
Alors encore faut-il convaincre ceux qui décident, hein. C'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, Marie-Cécile Thirion, c'est vrai qu'il faut convaincre et notamment les décideurs politiques de miser sur ce type d'agriculture, parce que ce sont des leviers importants, hein, si on veut changer d'échelle.
Tout à fait, je pense que on l'a vu, puisque c'est contextualisé, il faut que l'environnement soit porteur pour l'émergence de cette agriculture qui s'ancre sur les pratiques déjà existantes, mais avec des améliorations. Je voudrais quand même signaler ça, c'est que l'agroécologie, c'est pas un retour sur le passé, c'est pas demander aux agriculteurs de rester où ils sont, c'est au contraire les accompagner, hein, ça a été souligné plusieurs fois, et avec, comme le disait aussi Aurélie, des méthodes d'accompagnement et d'émergence de l'innovation pour améliorer ce qu'ils font, mettre en valeur ce qu'ils font, et puis parfois peut-être avoir des innovations externes à travers, entre autres, des échanges.
Oui, mais vous qui représentez l'Agence française de développement, vous êtes une banque en
voilà,
fait, hein,
tout
donc
à fait.
Vous donnez de l'argent pour financer tel ou tel projet. Mais est-ce qu'en face, vous n'avez pas des décideurs politiques qui vous disent encore, oui, bon, c'est sympa vos petites expériences, mais quand est-ce qu'on va faire des grands champs avec des tracteurs et de la culture intensive un peu partout, là, pour que ça soit rentable?
C'est pour ça que je signalais que c'est pas l'agriculture à l'ancienne. C'est parce qu'en face de nous, on a des gens qui veulent quand même de la modernité. Et c'est pour ça que je signalais que l'agroécologie, ce n'est pas rester où on est, c'est aussi aller de l'avant.
C'est très pointu, très technique.
C'est technique, ça peut faire appel à des nouvelles technologies, c'est pas comme ça peut ne pas faire appel à de nouvelles technologies, comme on l'a dit, c'est vraiment très spécifique. Mais c'est pas à l'ancienne. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en effet, les décideurs politiques, ils veulent emmener leur pays vers la modernité, vers le développement. Donc c'est le premier message à faire. Après, nous, en effet, vous l'avez signalé, on est une agence, une banque de développement, et donc on va appuyer dans notre dialogue de politique des politiques allant vers l'agroécologie. Je signalerai à cette occasion que nous, on fait un lien très fort avec le changement climatique, hein, ça a été dit au début. L'Agence française de développement a indiqué qu'elle voulait être désormais 100% compatible avec les accords de Paris. On veut s'engager de façon volontariste vers la lutte contre le changement climatique, et l'agroécologie est un outil particulièrement intéressant puisqu'il permet de gérer de façon plus durable les ressources naturelles au sens large. Donc c'est le sol, la biodiversité, l'eau, et tous ces éléments participent à la lutte contre le changement climatique. Donc on va intervenir dans nos dialogues avec les politiques, mais on va aussi intervenir sur l'agroécologie, la promotion de l'agroécologie à travers nos financements de projets. Ça peut être des projets qui vont être portés donc par la recherche, ça va être des projets portés par les ONG, qui sont des acteurs importants de l'agroécologie, puisqu'ils sont au plus près des agriculteurs. Et ça va être à travers d'autres financements. On a parlé du rôle du secteur privé, ça nous paraît essentiel. Il faut qu'on convainc les banques, il faut qu'on convainc les entreprises, qu'elles soient en amont, en aval de l'agriculture.
Mais c'est en marche, hein. Il y a quand même de nombreux pays qui ont fait ce choix aujourd'hui. On peut en citer quelques-uns peut-être.
Alors, sur les pays, nous, qu'on connaît bien, je pourrais citer par exemple le Laos. On a vu le reportage, là on a entendu, pardon, le reportage sur ce projet financé dans le nord du Laos. Le Laos affiche clairement son engagement pour l'agroécologie. Il est le pays porteur au sein de l'ASEAN de la démarche agroécologique. Mais je laisserai à Pablo le soin de nous parler de la situation en Amérique latine, plus particulièrement.
Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, quels sont les pays en Amérique latine qui portent cette transition?
Il y en a plusieurs. Le Brésil était le leader. Il y a déjà 10 ans qu'ils ont une loi nationale sur l'agroécologie. Et donc, ils ont eu un plan national pour l'éradication de la faim. Et en Argentine, on a plusieurs niveaux aussi de politique. On a des politiques au niveau des provinces. Et on a même des politiques au niveau des municipalités. Il y a des ordonnances au niveau de la mairie. Et en fait, là, c'est plutôt les politiciens qui nous appellent. Ils nous disent, bon, moi j'ai cette ordonnance approuvée par le conseil de la municipalité, et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on a des demandes directes de la politique, disons.
Voilà, la preuve que l'agroécologie, c'est moderne, comme vous le disiez. Et donc, c'est une des solutions, en effet, pour adapter l'agriculture des pays du Sud au changement climatique. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Pour en savoir plus, nous mettrons évidemment, comme d'habitude, de nombreux liens en ligne sur la page de l'émission. Tapez C'est pas du vent dans les moteur de recherche. Vous pouvez aussi réécouter cette émission en podcast sur notre application RFI Pure Radio ou sur le site internet de RFI, onglet émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.